Bonsoir et bienvenue à l'écoute d'RFI. C'est la dernière édition d'Afrique Soir. Il est minuit et demi ici à Paris et 22h30 en temps universel.
Sylvie Berruet.
L'inquiétude des jeunes au sein de la classe politique malienne réunie en collectif à Bamako, ils craignent la fin du pluralisme et appellent à la mobilisation. À Paris, après 3 jours de réunion, l'opposition bissau-guinéenne trouve enfin un terrain d'entente à quelques mois de l'élection présidentielle. C'est le résultat d'une étude menée par des biologistes américains et allemands. Les femelles bonobos, cette espèce de grand singe dont nous sommes les plus proches cousins par l'ADN, ont pris le pouvoir sur les mâles. Nous écouterons les explications d'Igor Strauss. Et puis les sports, le cyclisme, avec le départ demain du 20e tour du Bénin. 14 équipes, dont 11 africaines, s'élancent pour une semaine de compétition. Au Mali, des jeunes leaders politiques et de la société civile se mobilisent. Ils se sont réunis à Bamako pour rendre public un communiqué. Ils redoutent une éventuelle dissolution des partis politiques par la junte militaire et appellent la jeunesse à la mobilisation. Correspondance Serge Daniel.
Les initiateurs du manifeste sont des jeunes issus de la classe politique malienne et de la société civile. Aux côtés de responsables de plusieurs dizaines de partis politiques, ils entendent mobiliser la jeunesse de la société civile de leur pays au objectif ratisser large pour défendre, disent-ils, face à la junte, les libertés fondamentales. Amidou Doumbouya, l'un des jeunes signataires du manifeste.
En fait, nous avons décidé quand même de, en tant que jeunes politiques, en tant qu'avenir du pays, à réaffirmer notre volonté et notre attachement à la pluralité politique, à la démocratie, à la liberté d'expression et au jeu démocratique comme cela doit se faire dans notre pays, comme cela a été toujours le cas.
Le débat du jour est celui de la possible dissolution des partis politiques par la junte. Le nouveau regroupement des jeunes est absolument contre. Et pour se faire entendre, il va mobiliser du nord au sud, de l'est à l'ouest, non seulement pour défendre le multipartisme, mais pour le retour à l'ordre constitutionnel. Pour ces jeunes leaders, pas question de laisser le terrain à, je cite, un groupuscule de jeunes à la solde de la junte. Fin de citation. Ces derniers ont entamé une campagne pour appeler à dissoudre les partis politiques, probablement avec le soutien des autorités maliennes. Serge Daniel, Dakar, RFI.
En bref, une attaque djihadiste dans l'état de Borno, au nord-est du Niger. Nigeria a fait au moins 14 morts samedi. Selon les autorités locales, les victimes sont des agriculteurs et c'est la ville de Poulka, à la frontière du Cameroun, qui a été ciblée. Ce n'est pas la première fois, elle a déjà été attaquée à plusieurs reprises par des groupes djihadistes. Vague d'expulsion de migrants d'Algérie vers le Niger. Depuis le début du mois, Alger a renvoyé près de 5000 migrants, dont plus de la moitié sont des ressortissants nigériens. Et rien que la semaine dernière, 1800 personnes ont été renvoyées à bord de camions puis abandonné à une quinzaine de kilomètres au nord de la frontière nigérienne dans un endroit surnommé le Point Zéro. Elles ont dû marcher dans le désert, livrées à elles-mêmes dans des conditions extrêmes. Azizou Chehou est coordinateur du collectif associatif Alarmphone Sahara. Il dénonce les méthodes brutales des autorités algériennes.
Il y a celles qui vivent et travaillent en Algérie, mais pour d'autres, ce sont des personnes qui ont été expulsées des autres pays, à savoir la Tunisie ou le Maroc, et qui retournent en Algérie. Et dès qu'ils arrivent, il n'y a pas de répit. Les autorités algériennes les prennent et les dirigent vers la frontière nigérienne. Et cela se fait vraiment dans le manque de respect de la dignité humaine. Vous entendez des femmes déclarer qu'elles ont été violées pendant les arrestations, ou des hommes qui ont été tabassés, ils ont été dépouillés de leurs biens. Il y a un deal qui est fait entre les pays de l'Union européenne et certains pays du Maghreb pour qu'ils jouent le rôle de gendarme de l'Union européenne en vue de protéger les frontières. Et nous avons même des inquiétudes quant à la suite de ces expulsions. Si nous considérons certaines informations qui circulent par-ci par-là sur la possibilité d'une vague d'expulsion qui risque d'être organisée.
Des propos recueillis par Clotilde Hazard. Un éboulement la nuit dernière a fait au moins 4 morts et 13 blessés dans la banlieue d'Oran en Algérie. Plusieurs habitations ont été détruites dans ce glissement de terrain. Selon la protection civile algérienne, les ministres de l'Intérieur et de la Solidarité se sont rendus sur place. Et puis en Libye, un général tué par balle chez lui ce dimanche dans la banlieue de Tripoli. Les circonstances de sa mort ne sont pas connues. Le chef du gouvernement d'unité nationale, reconnu par les Nations Unies et basé à Tripoli a condamné ce meurtre. À Paris, les leaders de l'opposition bissau-guinéenne ont finalement trouvé ce dimanche un terrain d'entente en vue de la présidentielle de novembre. Vent debout contre la prolongation du mandat de l'actuel président Umaro Mbalo Sissoko, qu'il considère être un danger pour la démocratie. Ils se sont réunis pendant 3 jours pour trouver une position commune et selon l'ancien président de l'Assemblée nationale et le président du parti d'opposition PAIGC, Domingos Somoes Pereira, les 6 principaux opposants bissau-guinéens ont scellé leur entente dans un texte nommé Accord de Paris.
Vous pouvez me croire qu'on a bien discuté de nos différences, mais à la fin, on s'est accordé que c'est le moment de sauver la démocratie. Le régime de Umar Sissoko Mbalo est un régime qui veut être autocratique. Il ne respecte pas l'ordre constitutionnel. Et donc, même pour des élections, soit législatives et soit présidentielles, on a pris la décision de travailler dans nos partis respectifs, mobiliser nos bases politiques d'appui pour que ce combat soit mené ensemble.
Pas de candidature commune pour le moment.
C'est pas exclu, mais pour le moment, tout ce qu'on a dit, c'est de préparer nos bases respectives pour y arriver à cet accord.
Domingos Simoes Pereira répondait aux questions de Paul Langerie. C'est le fruit d'une étude menée par des biologistes américains et allemands et publiée récemment dans la prestigieuse revue Science. Les femelles bonobos, cette espèce de grand singe dont nous sommes les plus proches cousins par l'ADN, ont pris le pouvoir sur les mâles. Et pourtant, chez les mammifères, la domination des femelles est un phénomène extrêmement rare. Igor Strauss.
C'est un contraste frappant avec les chimpanzés, leur espèce sœur, chez qui les mâles dominent toutes les femelles avant leur pleine maturité. Chez les bonobos, les femelles ont un statut spécial par rapport aux autres singes, puisqu'elles occupent souvent une position sociale plus élevée que les mâles. Un statut qui leur permet de choisir librement leur partenaire sexuel et le moment de la reproduction, ou encore de contrôler l'accès aux ressources alimentaires convoitées comme les fruits. Jusqu'alors, 3 hypothèses étaient en concurrence pour expliquer cette domination des femelles. La première, dite d'auto-organisation, suppose qu'en dominant les mâles les moins compétitifs, les femelles pourraient gagner un rang social plus important. La seconde hypothèse est celle du contrôle de la reproduction, qui rendrait les mâles moins agressifs et renforcerait à l'occasion le pouvoir des femelles. Et la dernière hypothèse, celle qui a finalement été validée par les scientifiques, est celle de la coalition féminine. Grâce à des alliances soudaines et coordonnées, appelées coalitions, les femelles parviennent à prendre l'ascendant sur les mâles. Pour les chercheurs, ces alliances sont donc un formidable outil de pouvoir chez les mammifères.
Le cyclisme et le départ ce lundi depuis Niki dans le nord du pays de la 20e édition du Tour du Bénin. 80 coureurs sur la ligne de départ, 14 équipes dont 11 africaines, un tour très important pour elle. Il s'agit de la seule compétition en Afrique de l'Ouest estampillée UCI, c'est-à-dire qu'il y a le label de l'Union Cycliste Internationale. Olivier Pron.
Les Béninois ambiançaient chez eux à Parakou à la veille du départ de leur tour. Ils n'y ont encore jamais brillé, mais la compétition sur tout le continent est cochée dans le calendrier par tous les coureurs de la sous-région et d'ailleurs. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali et récemment le Burkina Faso ont perdu le précieux label UCI, quand le Bénin, lui, l'a acquis. Salami Avocetien, l'un des entraîneurs des guépards à vélo, est fier mais s'inquiète.
Oui, on doit être très très inquiet par rapport à ça, parce que nous sommes à l'approche des championnats du monde au Rwanda et il nous faut quand même des points pour qualifier nos coureurs pour le championnat du monde. Donc si nous, on avait beaucoup de courses UCI en Afrique de l'Ouest, on pouvait gagner des points et facilement qualifier nos coureurs.
Des points précieux à gagner donc pour les coureurs, mais pour obtenir le sésame UCI, le calendrier des charges est féroce en termes d'organisation, de logement, de sécurité, de santé. Il a donc un coût. Emilien Ouetto, vice-président de la Fédération Togolaise.
Est-ce que c'est le cycliste qui va moins bien? Non, je crois que les financements, les aides sont en regret. Dès que ça va vraiment recommencer, la volonté de toute la fédération, c'est d'intégrer l'UCI. Hein. Si quelqu'un n'y va pas, sûrement qu'il y a un petit problème. Mais nous, particulièrement, nous faisons l'effort. Souvent, c'est les conditions aussi qui dérangent un peu.
Des conditions que le Togo dit vouloir remplir d'ici un an. Olivier Pron, Parakou, RFI.
Et enfin, pour la première fois, une cycliste africaine remporte une grande classique européenne. La Mauricienne Kim Lecour, âgée de 29 ans, a inscrit cet après-midi son nom au palmarès de la course Liège-Bastogne-Liège. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Il est minuit 40 ici à Paris. Bonne soirée.